La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Et au menu de notre club cet après-midi, des tortues qui se féminisent, le festival hors-piste au Centre Pompidou et la planète des sciences. C'est une encyclopédie universelle dessinée et très drôle. Ils sont en place, je vous présente mes invités dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Héloïse, à la une de la science aujourd'hui, une théorie sur les circonstances de la disparition de l'homme de Néandertal sérieusement remise en cause.
Oui, une nouvelle étude nous apprend que le dernier homme de Néandertal serait mort bien avant ce que l'on croyait. Il n'aurait pas survécu plus longtemps à la prise de pouvoir de l'homme moderne dans le sud de l'Espagne, comme les scientifiques l'ont cru pendant des années.
On voit ça dans un instant avec notre invité. Et puis c'est Étienne Bertin qui réalise aujourd'hui l'émission, préparée par Chantal Le Montagnier et Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue les invités du club, Géraldine Gomez, Aline Richard, Sophie Becherel, Vincent Hulin et Antonio Fischetti. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Et bienvenue. Aline Richard, présentez-nous le scientifique auquel vous avez proposé de signer un article dans The Conversation.
Eh bien, il est en face de moi, son prénom est Vincent, il se présentera un peu plus de façon détaillée tout à l'heure. Et il est spécialiste des tortues et il va nous expliquer pourquoi les tortues se féminisent, en raison notamment du réchauffement climatique, et pourquoi ça n'est pas si grave que ça.
Son prénom c'est Vincent et son nom c'est Hulin. Vincent Hulin, bienvenue.
Merci.
Est-ce que cette féminisation des tortues, c'est un phénomène inquiétant ou pas?
Alors, pas forcément. Alors déjà, quand on parle de féminisation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le sexe des tortues, il n'est pas déterminé comme chez l'être humain par la génétique.
On va l'expliquer tout à l'heure.
Voilà.
Ouais.
Et donc du coup, a priori non.
Voilà.
Tout va bien.
Bon, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Sophie Becherel, votre coup de cœur scientifique cette semaine, s'il vous plaît.
Pour le festival Hors-Piste 2019 au Centre Pompidou, pour sa 14e édition, la manifestation pluridisciplinaire explore cette année le thème de la Lune, une zone imaginaire à défendre. Et donc, pour nous en parler, Géraldine Gomez, qui a programmé ce festival. Donc, pour la Lune, quelle hors-piste ou quel pas de côté vouliez-vous faire?
Alors, l'idée était de, comme toujours pour ce festival, d'aborder une grande thématique et effectivement d'en faire un pas de côté. Donc là, le pas de côté, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de faire un aller-retour Terre-Lune, Lune-Terre, constamment.
Ouais. Bon, c'est pas si loin hein, finalement, donc c'est bien, ça nous permet de faire le voyage avec vous. Et puis enfin, Antonio Fischetti qui revient dans la tête au carré. Ça va Antonio?
Oui, très bien.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé à ce micro et vous revenez avec une encyclopédie illustrée intitulée « La planète des sciences » où l'on croise tout le gratin de la science.
Oui, voilà. C'est une galerie de portraits depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc de 37 scientifiques avec des textes que j'ai écrits et des planches dessinées par Guillaume Bouzard. Voilà. Et donc ça sort aujourd'hui à l'occasion du Salon de la bande dessinée à Angoulême.
D'où vous revenez justement, on en parle dans un instant. Et puis les auditeurs nous rejoignent bien sûr avec toutes les questions sur le site de l'émission franceinter.fr.
La disparition des Néandertaliens est une des grandes questions que nous nous posons actuellement. Les Néandertaliens ont progressivement diminué d'importance, de nombre, la répartition des sites se réduit, leur localisation aussi, et donc on a vraiment le sentiment qu'il y a eu un processus, si vous voulez, de réduction et de disparition.
Voilà, ça c'est une archive d'une émission de 1998 qui s'appelait « Bonjour ancêtres » avec la voix du paléoanthropologue, c'est un bon titre, du paléoanthropologue Bernard van der Mersch, spécialiste de l'homme de Néandertal. Justement, c'est de lui dont on parlait, Héloïse, lui qui nous intéresse plus précisément le lieu et l'époque de sa disparition.
Oui Mathieu, parce que les scientifiques savent depuis longtemps que la conquête du globe par les hommes modernes, que nous sommes, s'est faite aux dépens d'un autre homme, celui de Néandertal. Mais jusqu'à il y a peu, on pensait qu'il nous avait résisté un peu plus longtemps dans une région d'Europe très réduite, au sud de l'Espagne. Mais une nouvelle étude parue dans la revue Nature vient mettre à mal cette théorie. Pour en discuter, nous sommes au téléphone avec Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck de Leipzig et vous êtes professeur au Collège de France. Alors pour bien comprendre l'importance de ces travaux, il faut un peu se replonger dans la grande histoire de l'évolution. Une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, l'homme moderne a complètement pris le dessus sur Néandertal. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Oui, tous les hommes actuels qu'on appelle donc des hommes modernes, c'est une dénomination qui est parfois critiquable, mais c'est celle qu'on utilise, ont tous une origine africaine. Et donc, à un moment donné du passé, nos ancêtres sont sortis d'Afrique. C'est assez tardivement qu'ils se sont répandus dans les latitudes moyennes de l'Eurasie, et on sait qu'ils sont arrivés dans l'est de l'Europe, dans le centre de la Sibérie, il y a environ 45 000 ans. À cette époque-là, on a des hommes de Néandertal qui vivent en Europe, et il va falloir plusieurs millénaires pour que ces Néandertals disparaissent et laissent la place à ces hommes modernes.
Et puis, ils sont finis par arriver à l'ouest de l'Europe, à un moment donné.
Alors, on sait qu'il y a une certaine profondeur de temps hein, dans ce processus de remplacement, qui d'ailleurs n'est pas un remplacement total. Il y a une petite assimilation, si je peux dire, des Néandertaliens qui sont un peu absorbés, mais seulement quelques pourcents de notre génome est d'origine néandertalienne. Et donc, disons, entre l'est de l'Europe et puis l'ouest, peut-être 5000 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Et dans ce pays paysage-là, depuis longtemps, le sud de la péninsule ibérique fait figure un peu d'exception, en tout cas de cas très particuliers, puisque depuis très longtemps, des chercheurs ont soutenu l'idée que le remplacement avait eu lieu là encore beaucoup plus tard, c'est-à-dire plus de 10 000 ans après cette arrivée des hommes modernes en Europe.
Ils avaient d'ailleurs une théorie pour expliquer cette persistance dans le sud de l'Europe.
Oui, oui. Alors on a longtemps parlé de ce qu'on appelait la frontière de l'Ebre. L'Ebre, c'est un fleuve qui traverse l'Espagne d'est en ouest. Et donc, l'idée, c'était que ce fleuve avait représenté une espèce de frontière entre le monde des derniers hommes de Néandertal au sud, et puis au nord, ces hommes modernes qui auraient très longtemps hésité avant de traverser ce fleuve.
Et donc, cette nouvelle étude, elle remet complètement en cause cette vision des choses. Pourquoi ?
Eh bien, en fait, cette étude, elle conclut qu'on a déjà des hommes modernes dans une grotte qui s'appelle Barrandillo, qui est près de Malaga, et bien avant 40 000 ans. Et donc, en fait, une date qui correspond à la date du remplacement dans d'autres régions d'Europe occidentale. Alors, il faut bien comprendre que dans ce cas particulier, comme c'est souvent le cas en archéologie, il va y avoir et il y a déjà des discussions pour savoir si il n'y a pas de mélange de niveaux, si les industries ont bien été identifiées, etc. Mais en même temps, cette étude, elle s'inscrit dans un contexte plus général de nombreux résultats qui s'accumulent et qui, en gros, n'arrivent pas à répliquer ces dates très récentes pour les derniers néandertaliens, alors à Gibraltar, en Andalousie, dans le sud du Portugal. Et donc, on a l'impression de plus en plus qu'en fait, ce qui est en cause, eh bien, ce sont ces datations qui ont été établies il y a 20 ans ou plus.
Parce que ces scientifiques, ils étaient de bonne foi il y a une vingtaine d'années. La technologie a évolué. Pourquoi on n'arrive pas à reconfirmer ces résultats ?
Alors, d'abord, je vous corrige, les scientifiques sont rarement de bonne foi complètement. Ils ont toujours des idées très très arrêtées sur tous les sujets, et dans le fond, ils sont très contents de trouver des arguments qui alimentent leurs hypothèses. Mais enfin, il y a une sélection darwinienne des scientifiques et des théories. Donc, à la fin, c'est quand même, si je peux dire, la vérité qui triomphe. Les datations, surtout les datations radiocarbone qu'on effectuait, disons, il y a plus de même 10 ans seulement, pour les périodes qui sont les périodes de limite d'application de la méthode, étaient quand même très imprécises, et on a fait des progrès énormes, surtout dans les années 2000, qui ont amélioré leur précision et surtout qui ont abouti à un vieillissement de toutes les dates qu'on avait acquises auparavant pour la période qui nous concerne, autour de 35-40 000 ans.
Donc la vérité va sûrement finir par triompher, mais en attendant, il y a quand même une grosse controverse scientifique, une grosse discussion autour de cette question qui persiste.
Oui, alors on avait quand même, enfin, d'un point de vue, je dirais, du bon sens, hein, on avait un peu de mal à comprendre pourquoi ces hommes de Néandertal, spécifiquement dans cette région d'Europe, ils auraient persisté beaucoup, beaucoup plus longtemps. Alors, évidemment, on est au fond du cul-de-sac européen, donc l'idée qu'ils aient duré là plus longtemps que, disons, dans les Balkans ou en Europe centrale, ça fait sens. Mais en même temps, imaginez que des hommes modernes qui ont traversé le nord-est de l'Afrique, pénétré au Proche-Orient, traversé la Turquie, les Balkans, longé la côte méditerranéenne, la vallée du Danube, et qui de l'autre côté sont allés jusqu'en Australie, hein, en traversant de sérieuses étendues marines, eh bien qu'ils étaient arrêtés par ce fameux fleuve Èbre, parce que de l'autre côté il y avait un peu plus de forêt, ça paraissait quand même un petit peu étrange. Et dans le fond, les études dont je vous parle, je pense probablement rétablissent une vérité qui est peut-être un peu plus banale que cette mystérieuse survie des Néandertaliens dans le sud de la péninsule ibérique, mais qui est probablement plus proche de la réalité.
Jean-Jacques Hublin, pour terminer très rapidement, on en a souvent parlé à ce micro avec vous, mais qu'est-ce qui a fait finalement que l'homme moderne a vraiment pris le dessus sur Néandertal ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait consensus, si c'est possible, en tout cas, sur cette question ?
Ah ben, il n'y a pas de consensus vraiment là-dessus, c'est-à-dire que en gros, il y a quand même des collègues à moi qui pensent que les Néandertaliens ont été remplacés par les hommes modernes un petit peu par hasard, parce qu'ils n'ont pas eu de chance, parce que ils ont été exposés à des climats ou des catastrophes naturelles qui les ont fait disparaître au moment où justement les hommes modernes arrivaient. Maintenant, je crois qu'il faut bien quand même saisir que partout où les hommes modernes sont allés après leur sortie d'Afrique, eh bien, tôt ou tard, ils ont fini par remplacer les populations archaïques locales, en les assimilant un petit peu. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pas tant la question de pourquoi les Néandertaliens ont disparu, mais plutôt de qu'est-ce qui est spécial avec l'espèce Homo sapiens et qui fait qu'elle a ce succès reproductif extraordinaire et cette mainmise sur toute la planète. On a longtemps parlé de technologie, même de certains caractères, biologiques. C'est peut-être du côté de la sphère sociale, dans le fond, de la capacité de mise en réseau d'individus, de groupes, qu'il faut voir le succès de notre espèce. Hein. Nous sommes très très bons pour la mise en réseau d'individus et de groupes sur des surfaces très très étendues. Peut-être quelque chose que les Néandertaliens pratiquaient moins et qui a fini par causer leur remplacement.
Merci en tout cas Jean-Jacques Hublin. Vous nous parliez depuis Leipzig. Vous êtes directeur du département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck. Merci à vous, bon week-end. Et puis Héloïse, on se retrouve lundi avec une nouvelle lune. À lundi. Dans un instant, le club.
Entertainment in your bed, entertainment in your sleep. entertainment's what the world needs to keep turning around, you see. It's a face I need once more before I end up down the grave. It's the sugar that combined it makes me stick to what you say.
Entertainment, c'était Balthazar.
La tête au carré. Le club.
Dans le club, cet après-midi, nous allons parler des tortues qui se féminisent, d'un festival hors-piste au Centre Pompidou et de la planète des sciences. C'est une encyclopédie universelle dessinée. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre en direct avec toutes vos questions, vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On va commencer avec vous, Vincent Hulin, et cet article donc que vous signez pour le site The Conversation France sur les tortues marines qui se féminisent. Vous êtes écologue et directeur adjoint de l'expertise au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, qu'est-ce qui leur arrive exactement à ces tortues?
Alors, il arrive la même chose que depuis longtemps, mais c'est juste qu'on est dans un moment où on peut s'inquiéter pour elles. En fait, comme je disais tout à l'heure, le sexe des tortues, alors chez la plupart des tortues, est déterminé non pas par la génétique, comme chez l'être humain, mais plutôt par la température d'incubation des œufs, pendant une certaine période de l'incubation, pas la totalité. Et donc, on est dans une situation où quand il fait plutôt chaud, on a plutôt des femelles, et quand il fait plutôt froid, plutôt des mâles. Et donc forcément, dans le contexte du changement climatique, tout le monde s'inquiète en disant il va faire de plus en plus chaud et donc il y aura de plus en plus de femelles et on s'attend a priori plutôt à une catastrophe. Voilà.
Alors petite parenthèse juste, c'est quelque chose de très fréquent chez les reptiles justement.
Alors chez les reptiles,
cette détermination du sexe en fonction de la température,
c'est
l'environnement.
Après les réponses sont différentes, vous avez des réponses différentes en fonction selon les lézards, les crocodiles. Des fois c'est dans le sens contraire, plutôt chaud des mâles. Des fois c'est des températures intermédiaires
des
mâles.
Ça change, d'accord.
Voilà, il y en a où en fait c'est plutôt des températures extrêmes basses ou hautes des femelles, intermédiaires des mâles, etc. Voilà. Mais la détermination du sexe par d'autres facteurs que la génétique est assez répandue. Ouais.
Aline Richard.
Et donc, la température ambiante, c'est par exemple celle du sable chaud, dans lequel la tortue pond ses œufs.
Exactement. Ouais. Pour les tortues marines, c'est bien ça.
Alors, Vincent, il y a eu un article qui est paru justement sur cette question, auquel vous réagissez finalement d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui nous dit cet article au départ?
Alors, cet article, justement, il vise à répondre à cette inquiétude un peu a priori, c'est-à-dire le fait de se dire il va faire de plus en plus chaud, est-ce qu'on va avoir de plus en plus de femelles, et si oui, est-ce que c'est un souci? Et donc c'est un article qui travaille à partir d'un modèle prédictif, c'est-à-dire qu'on rentre les températures, les scénarios du GIEC, et puis on voit ce qui se passe en
sur une échelle d'un siècle par
jusqu'à
exemple
jusqu'à à peu près 2100.
Voilà. C'est ça.
Et donc la conclusion de l'article, alors évidemment je renvoie tout le monde pour les détails, mais en gros c'est de dire que les populations de tortues étudiées jusqu'en 2100, ça devrait bien se passer.
Même avec un réchauffement climatique de...
Voilà. Alors on n'est pas sur le scénario le plus bas, on est sur un scénario intermédiaire, donc on est un peu plus que 2 degrés, mais on n'est pas non plus à plus 8 comme ça peut être.
Donc il y aura une féminisation certes,
c'est ça,
plus de femelles, mais finalement une situation qui va rester tenable.
Finalement pour les populations ça va. En fait c'est des populations dans lesquelles déjà aujourd'hui on estime qu'il y a plus de femelles qui sont produites. Alors après, c'est très différent en fonction des populations des espèces, mais il y a de toute façon aujourd'hui globalement plutôt des femelles chez les tortues marines.
Antonio Fischetti, qui s'intéresse beaucoup aux animaux.
Je me posais une question, là, c'est-à-dire indépendamment de l'effet du réchauffement climatique, est-ce qu'il y a un avantage adaptatif à ce qu'il y ait plus de femelles quand il fait chaud?
Alors justement, ça c'est en fait évidemment la question que se sont posées beaucoup de chercheurs, c'est pourquoi c'est comme ça,
ouais.
Qui est toujours un peu la question rituelle chez les chercheurs. Il y a un modèle qui dit ça, qui dit que justement une des raisons pour laquelle ça pourrait évoluer vers une température du sexe dépendant de la température, c'est quand il y a un des deux sexes qui bénéficie plus d'une des températures que l'autre. C'est-à-dire que typiquement chez les tortues, ça voudrait dire que aux températures les plus chaudes, il vaut mieux faire des femelles que des mâles pour diverses raisons. Donc le modèle dit par exemple, aux températures les plus chaudes, c'est aussi les températures dans lesquelles les individus sont les plus gros, et on a plutôt intérêt à avoir des grosses femelles que des gros mâles. Voilà. Alors évidemment, c'est très difficile à tester, hein, parce que ça veut dire qu'il faut produire des mâles et des femelles à toutes les températures. Enfin bon, ouais, bref.
Oui, d'accord.
Voilà, c'est un peu complexe.
On va partir en Guyane, tiens, justement, entendre parler de tortues à l'occasion d'un reportage qui avait été diffusé en 2003 sur France 2. Les tortues luttent qui pondent leurs œufs sur une plage de Guyane et qui sont protégées d'ailleurs pour cela, vous allez voir, de façon très surveillée.
Les palmiers, le soleil et cette humidité tropicale si particulière, la Guyane est pour les tortues marines une destination incontournable depuis la nuit des temps. La magie de la nature s'exerce en attirant par-delà les océans les femelles prêtes à pondre. Le rendez-vous est pour cette nuit patience.
Au cours d'une même saison de ponte, les femelles peuvent revenir pondre une, trois, cinq, peut-être sept fois. Mais après, elles partent au large, elles partent dans tout l'Atlantique. Et là, on les revoit pas avant 2, 3, voire 4 ans.
Dans les années 80, il y avait plus de 50 000 pontes par an. En 2003, 15 000 à peine. Alors cette plage est devenue une réserve naturelle pour la campagne Kawana, qui veut dire tortue en Kalina, la langue amérindienne locale. Et depuis 1999, un arrêté préfectoral leur sert de garde du corps et on ne plaisante pas.
La loi interdit formellement de prélever les œufs, les bébés ou même les adultes. La peine d'emprisonnement est de 6 mois, l'amende va jusqu'à 9000 euros. Et toute la nuit, ici, des gardes-patrouilles pour justement veiller à ce qu'aucun mal ne soit fait à cette espèce protégée.
Ah oui, ça rigole pas, Vincent Hulin. Hein. 6 mois d'emprisonnement. Donc, alors ça, c'était en 2003. Hein. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais a priori,
c'est, hein,
c'est encore priori, pire, c'est pire aujourd'hui. Ouais. Donc, et moins de pontes. Hein. C'est pour ça qu'on protège énormément les sites de pontes sur les plages. Est-ce que c'est un phénomène qui est enregistré partout dans le monde, ça ou pas?
Alors non, pas exactement. En fait, cette plage, je pense qu'on parle de la plage de la Mana. Voilà, Yalimapo, qui est plutôt dans l'ouest de la Guyane, qui était très connue, notamment pour les pontes de tortues luttes.
Oui, c'est ça.
Tortues vertes.
Ouais.
C'est une plage qui, en fait, disparaît par des raisons plutôt naturelles. On est à l'embouchure du Maroni, et du coup, par tout ce que le Maroni peut charrier,
ouais.
Tout ça disparaît avec des bancs de vase qui font que les tortues ne montent plus. Donc là, c'est une disparition naturelle.
Mm-hmm.
Donc, on n'observe a priori pas globalement de perte du nombre de tortues, parce qu'en fait, les plages qui sont comme ça, un peu abandonnées, on va dire, pour diverses raisons, si tout va bien, et c'est un peu la question, on peut avoir des nouvelles plages colonisées par les femelles. Et donc le nombre de pontes ensuite s'équilibrer.
Ouais. Aline Richard.
Oui, en fait, il y a beaucoup de sites de pontes de par le monde. Hein. Je pense à la Floride ou au Costa Rica, où c'est devenu un espèce de spot touristique également. C'est-à-dire qu'on regarde les tortues, on regarde les œufs. Et c'est très réglementé, en effet.
Et on les vole d'ailleurs beaucoup
et
la nuit.
Vole.
Il y a des surveillances permanentes.
Donc je pense que c'est aussi un enjeu en termes d'écotourisme. On parle beaucoup d'écotourisme pour la protection des espèces sauvages. Et là, c'est un cas intéressant.
Ouais. En tout cas, entre une ponte, justement, et le nombre d'individus qui restent, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Hein, parce qu'il
y a une prédation terrible.
Ouais.
Et puis ensuite, une difficulté déjà, entre le moment où les bébés sortent de l'œuf, d'aller dans l'eau, rejoindre la mer.
Oui, c'est ça. En fait, on est sur des pontes où il y a énormément d'œufs. Une tortue lutte, on est entre 80 et 100 œufs par ponte. Donc, comme on l'a dit, les femelles peuvent venir pondre plusieurs fois dans l'année. Effectivement, déjà, il y a pas tous les individus sortent pas des œufs. Ensuite, il y a le chemin vers la mer qui est semé d'embûches et qui conduit à ça. Et puis ensuite, une fois que les petits sont dans l'eau, il y a de la prédation par les poissons, etc. Donc, à l'âge adulte, on estime qu'effectivement, il y a très très peu d'adultes qui arrivent à l'âge de reproduction. Et donc, c'est plutôt l'âge adulte dans ces espèces-là qui est le plus important pour les populations.
Alors, s'il y a de plus en plus de tortues femelles, est-ce qu'il y aura assez de mâles justement pour faire que les espèces puissent se reproduire?
Alors, donc, d'après le modèle dont on parle, qui est issu de l'article scientifique là. A priori, oui.
Oui, quand même. Hein.
Encore une fois, on est dans des situations, aujourd'hui, on observe des populations de tortues dans lesquelles il y a 90% de femelles. Et les choses se passent bien, justement, parce qu'une femelle peut pondre plusieurs fois, se reproduire avec plusieurs mâles, et donc les populations se tiennent bien. Donc sur ce point-là, ça devrait aller. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait que des femelles pendant très très longtemps, mais a priori, on en est loin encore.
Oui. Ça, c'est un bon exemple, finalement, de la façon dont on peut interpréter, parfois un peu trop rapidement, les conséquences du réchauffement climatique. Et c'est, au fond, une sorte de pédagogie, hein, votre article, parce que ça nous montre que, il faut pas aller aux conclusions trop vite. Hein.
C'est ça. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est plutôt le fait de dire que c'est plutôt les effets indirects du changement climatique qui vont poser problème. Petit 1 et petit 2, le comportement, on a parlé du tourisme, il y a plein d'autres sujets, la façon dont nous on traite et ces espèces et les sites de ponte.
Ouais. Par contre, un des effets, ça peut être la montée des eaux.
Exactement. Hein? Et en fait, c'est ça. Voilà. C'est la montée des eaux, et en fait, qui dit montée des eaux, dit perte de tout un tas de sites de ponte pour ces tortues qui vont disparaître sous les eaux. Un œuf qui est pondu à un endroit et qui est recouvert par la mer, les œufs se développent pas parce qu'il y a plus d'oxygène, etc. Donc c'est un problème. Et donc, évidemment, les pertes de sites de ponte, c'est plutôt ça qui va poser problème a priori.
Antonio ?
Oui, mais puisque le même problème, disons, se pose pour d'autres espèces, est-ce qu'on sait si certaines espèces risquent d'être menacées pour la même raison, par exemple des poissons, faute de mâles, par exemple, ou alors faute de femelles, puisque dans certains cas, c'est l'inverse, où les lézards ou des reptiles...
Alors, a priori, c'est effectivement des choses qu'il faut regarder au cas par cas, espèce par espèce, parce que encore une fois, là, en fait, le fait qu'il y ait trop de femelles n'est pas un problème chez les tortues, du fait de leur mode de reproduction et de vie et d'alimentation, etc., etc. Donc, forcément, quand on change de type d'espèce, on n'est plus du tout sur les mêmes comportements, et donc les conséquences vont être complètement différentes. Donc, tout ça se regarde au cas par cas. Ouais.
Allez, Aline, dernière question.
C'est plus une remarque. Cet article est très intéressant parce que justement, comme on vient de le dire, il permet de ne pas être catastrophiste. Et il permet aussi de laisser place à l'incertitude. Quand on vous lit, Vincent, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'on peut pas prévoir. Hein, on peut pas prévoir exactement la montée des eaux. On peut pas prévoir un certain nombre de choses. Donc, tout est ouvert. Hein. Et je pense que dans ces affaires de changement climatique, et de biodiversité, il y a beaucoup de questions ouvertes.
Vincent Hulin.
Oui, je pense que ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il faut se laisser... Là, je vais vous expliquer pourquoi les choses devraient ne pas être catastrophiques, mais en fait, à chaque fois, il y a des espèces de ceintures de sécurité, à la fois du terme de comportement, de sites de ponte nouvellement colonisés. Et en fait, ce qui est important, c'est que nous, on laisse la possibilité à ces espèces d'avoir des nouveaux sites de ponte. Donc, effectivement, de laisser des plages accessibles, de les surveiller, de protéger quand on trouve des pontes. Il y a eu une ponte en métropole il y a peu de temps.
Dans le sud de la France.
Dans le sud de la France, ça, dans l'Hérault.
Vers Montpellier.
La tortue Kawan, c'est la première, a priori, on voit des petits émerger. On a déjà vu des pontes, mais là, on a eu des jeunes. Donc, ça veut dire que ça peut arriver, sauf que vous imaginez bien que pour une tortue marine, venir pondre sur une plage en métropole, c'est parfois un peu compliqué parce que fréquentation, urbanisation, etc. Donc, voilà, ce qui est important, c'est de à la fois protéger ces animaux en mer et ensuite leur laisser la possibilité de coloniser des nouveaux sites de ponte. Et ça, c'est pas une mince affaire.
Et donc, on peut lire cet article sur The Conversation. Le site est en lien sur La Tête au Carré. Allez, dans un instant, on part au centre Pompidou et on part aussi et surtout sur la Lune.
Tu peux éteindre la lumière, tu peux danser tant que tu veux et finir en poussière. Je retiendrai tant que je peux tes mains dans l'atmosphère, l'odeur des joints tous les matins me fout en l'air. Tu veux toujours me plaire en tes leçons tant que tu peux et jamais me faire taire. Je l'écouterai tant que je peux ton hymne militaire, ta voix parfois, dès le matin, me fout en l'air.
L'odeur des joints, c'était Holidays à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, la lune qui revient en force, et c'est le hasard. Mais ça tombe bien finalement, puisque au Centre Pompidou, Sophie, on en parle aussi.
Oui, avec Géraldine Gomez, je ne sais pas si c'est un hasard tout de même. On fête les 50 ans donc du premier atterrissage de l'homme sur la lune. Et donc vous avez proposé à des artistes de travailler sur ce thème-là. Et l'exposition s'intitule « Zone imaginaire à défendre ». Est-ce que ça veut dire que la lune est en danger? En tout cas que ces artistes ont tous cette conscience qu'il y a quelque chose à défendre, à sauver?
Oui, d'une certaine manière, c'est moi aussi qui ai voulu orienter un peu la proposition de ce côté-là, parce que effectivement, si on fait un petit bilan aujourd'hui de ce qu'on projette sur la Lune, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a beaucoup projeté sur la Terre, à ce qu'on continue à y projeter, d'où cet aller-retour dont je parlais tout à l'heure. Et pour l'instant, ça reste toujours la même équation, 5 ou 6 grandes puissances mondiales qui décident pour le reste de l'humanité une surexploitation minière essentiellement. Après, je suis pas une grande spécialiste, mais en tout cas, je voulais évoquer cette idée que il n'y a pas beaucoup d'imagination aujourd'hui dans ce qu'on projette sur la Lune, et c'est effectivement essentiellement pour aller exploiter, explorer et surexploiter même des choses qui ont un rapport qui est en tout cas de la surexploitation et de pas imaginer un avenir commun aux terriens en fait.
Alors, il y a plusieurs formes d'expression de ces artistes. C'est vous qui êtes allé les chercher et ils avaient donc ce message. Dites-nous ce qu'il faut sauver sur la Lune. C'est un objet, c'est un univers, c'est...
Alors,
ils sont libres.
Alors, il y a 80% de commandes, c'est-à-dire que les artistes ont créé pour Orpiste. Après, il y avait des choses déjà existantes. Je les ai évidemment choisies en fonction de cette ligne éditoriale. L'idée, en gros, c'était de mélanger la petite histoire, la grande histoire, la poétique aussi que la Lune
oui, parce
évoque
là, vous parlez de la dimension politique, mais il y a de la poésie aussi.
Absolument. Et donc, après, j'ai fait une commande très précise à Bureau d'études et Rouen Chardronnet, qui sont des spécialistes de l'art spatial, pour justement qu'ils puissent proposer, sous forme de cartographie, une lecture assez simplifiée de ce qu'on projette aujourd'hui, de ce que les grandes puissances projettent aujourd'hui sur la Lune. Donc ça, c'est plutôt une partie effectivement politique, où on voit d'ailleurs émerger ensuite, parce que eux-mêmes ont invité des astronautes autonomes, des petits gilets jaunes, comme vous avez vu, parce que finalement ça va jusqu'à là, les revendications, c'est-à-dire de tenter aussi d'imaginer d'autres choses sur la Lune, qui sont sans doute beaucoup plus utopiques, mais en tout cas plus démocratiques. Et après, il y a d'autres géographies dans cette exposition qui sont plus scientifiques et d'autres effectivement beaucoup plus poétiques.
Mais est-ce que ça fait rêver les artistes de travailler sur la Lune aujourd'hui, sincèrement, ou est-ce que vous avez eu du mal finalement à les convaincre? Est-ce que c'est un objet qui suscite l'imaginaire et la créativité?
Ben, moins que d'autres sujets, ouais. C'est vrai. Après, il faut les trouver, donc c'est ce que je fais pendant l'année qui précède l'édition. Et puis finalement, quand on va les convoquer sur ce sujet-là, c'est quand même un... La Lune, ça évoque de toute façon quelque chose à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Après, produire une œuvre, c'est une autre paire de manches. Ouais. Mais en tout cas, il y a eu forcément un moment donné où je leur ai laissé un peu de temps et où ils sont rentrés dans le sujet avec intérêt et force.
Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les performances. Alors, on va parler quand même de quelques œuvres, même s'il y en a beaucoup. Par exemple, l'œuvre de Sarah Forte, c'est une sorte de Harrison Schmitt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le seul astronaute géologue qui était partie dans le cadre du programme Apollo, et à qui on a donc demandé de collecter des pierres. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette Sarah Forte, qui a en fait créé l'œuvre au tout début du festival? Et c'est une sorte d'Harrison Schmitt féminin, mais sur Terre, c'est
ça? Mais sur Terre, oui. Ça évoque toujours cet aller-retour, c'est-à-dire que dans cette même pièce, on a les deux œuvres d'art qui sont sur la Lune.
Sur la Lune, il y a des œuvres d'art en ce moment sur la Lune.
Le Moon Museum
et
le Fallen Astronaut, donc ils sont une sculpture et un mini musée qui sont déposés sur la Lune. Il y en a Il y a un autre objet qui va partir bientôt en 2021 qu'on expose aussi. Et donc, je voulais faire un miroir avec cette performance effectivement de Sarah Forte, qui est une jeune performeuse anglaise qui propose. Enfin, elle a terminé. Hein, du coup, c'était que pendant les 4 jours d'ouverture du festival. Tous les jours à 11h, elle s'habillait en astronaute. Elle partait avec une petite valise roulante qui a exactement le même contenant qu'avait Armstrong au moment où il est parti sur la Lune. Et elle va récolter des petites pièces, des petites choses qu'elle ramène le soir à 17h et qu'on peut découvrir petit à petit. Dans, enfin là, pour le coup, elle a fini de faire sa composition voilà, sur les murs du centre.
Ah ben justement, on va repartir au moment de la première arrivée de l'homme sur la Lune, donc en juillet 69. Un documentaire, un extrait d'archives de l'ORTF, et on voit ce qui s'est passé justement sur les antennes à ce moment-là.
Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong.
Voici le premier pas.
Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong.
Voilà, c'est très sobre hein, finalement.
C'est
là,
très sobre. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'empreinte et effectivement le régolithe et le pas de l'homme, ça donne quelque chose. Peut-être que des artistes ont travaillé là-dessus. Et alors cette page d'histoire, elle est présente dans l'exposition avec une pièce de 1969 reconstituée dans le style de l'époque, un écran de télévision où on montre pas cette image-là, celle de Neil Armstrong, mais celle d'un autre astronaute du programme Apollo, et puis un très vieux film, parce que la Lune, elle a inspiré les artistes depuis très longtemps.
Oui, donc on a reconstitué un salon des années 60, et dans ce salon, il y a effectivement deux écrans, un écran sur lequel la NASA nous a prêté un extrait qu'on a pris sciemment un peu loufoque, comme ça, où on voit un astronaute sauter, et juste à côté, on a la chance dans les collections du centre d'avoir le film de Méliès, donc on l'a mis comme ça en parallèle, parce que justement, pour évoquer aussi, pas simplement le côté géopolitique et politique de la Lune aujourd'hui, mais aussi de tout l'imaginaire que ça a toujours trimballé, en fait.
Alors, je crois que le seul autour de cette table qui se souvient des images, parce qu'il était né déjà avant 1969, c'est Antonio Fischetti. Ah,
ben, ça ne me rajeunit pas.
Ben, ouais, désolé, Antonio. Hein. Vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais précisément 9 ans.
Et vous en souvenez alors, de ce premier pas de l'homme sur la Lune?
C'était une exaltation, même dans la cour d'école.
C'est vrai.
Tous les enfants, alors on était excités comme des puces. Hein. Et je me souviens très bien aussi d'une chose, c'est que on regardait la Lune le soir.
En même temps.
On essayait de les voir. et puis tout, il y en avait toujours un qui voyait, oui, je vois ça, ce petit point-là, c'est cosmonaute. Mais moi, ce que je regrette quand même, c'est que à cette époque-là, on était vraiment totalement exaltés. Puis maintenant, on va sur Mars, voilà, ça passe inaperçu.
On y pense, enfin,
les robots, là, les robots. Et Antonio, il est déjà sur Mars dans sa tête. Sophie, pour terminer.
Moi, je trouve que oui, je voulais encore parler d'une œuvre qui m'a beaucoup touchée, c'est celle d'Agnès Meyer-Brandis. Elle propose un film, et fait, en fait, toute une démarche qui s'appelle The Moon Goose, sur la base d'un très vieux livre, le premier. Qui serait le premier livre de science-fiction, où en gros elle entraîne des oies, donc des canetons, des œufs, des canetons, puis des oies, à aller sur la Lune. Et elle est donc habillée en cosmonaute, et elle va leur faire suivre, les entraîner, quoi. Et alors elle filme tout ce processus. C'est d'une beauté et d'une magie.
Ouais, c'est une œuvre qui plaît beaucoup, et pourtant le film n'est pas sous-titré en français.
Oui,
elle n'a pas
voulu
le faire sous-titrer pour justement pas gâcher la beauté de son image. Et il est beaucoup suivi. Oui, ça part d'un livre de Goldwyn, qui est un livre du XVIIe siècle, où il raconte justement toute cette épopée. Il en peut plus de la Terre. Il veut partir sur la Lune, hein, comme Jules Verne plus tard.
Ouais.
Et donc lui, il décide d'y aller avec ses oies de la Lune, donc Moon Goose. Et elle a repris tout ce processus-là. Alors moi, j'ai pas repris l'entièreté de l'installation, parce que normalement, on peut avoir aussi des petites oies dans l'installation.
Mm-hmm.
J'ai pris uniquement ce film, le portrait des oies en astronaute sur le côté, et effectivement la présentation de ce livre. Mais ça renvoie effectivement à tout cet imaginaire. Après, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle-même est scientifique. Donc elle rajoute une couche de lecture pour moderniser un peu le projet.
Allez, pour terminer.
Non, il y a aussi des conférences, des projections, des performances sur scène dans ce festival. Et moi, je suis très impatiente d'aller voir. Et
oui,
voilà, je n'en trouve plus. Elitsa.
Ça, c'est dimanche.
Voilà, c'est dimanche. Georgieva, qui a écrit un livre exceptionnel sur comment elle a vécu enfant la conquête de l'espace.
Elle est russe.
Côté soviétique. Gagarine, etc. Et donc, sur scène, il faut aller voir ça.
Alors, ça s'appelle Hors Piste, hein, c'est ce festival. Festival au Centre Pompidou, c'est jusqu'à quand, Sophie ?
C'est jusqu'au 3 février.
Ah oui, il faut se dépêcher.
Oui. Et alors, je vous conseille aussi de prendre le petit fascicule à l'entrée, parce qu'il y a peu de cartels, peu d'explications, mais beaucoup de choses en revanche dans le fascicule pour
décrypter. Il y a des oies en couverture de ce fascicule.
Ah, mais c'est extraordinaire.
Allez, dans un instant, on parle de grandes figures de la science avec Antonio Fischetti.
Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient plus du tout du goût du baiser dans le cou. Elle me demande de l'embrasser, je ne sais plus si c'est déplacé et je suis bien embarrassé, même juste comme ça, un baiser. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort. Elle pose la main sur ma joue et ma pudeur en prend un coup. C'est fou, elle pense surtout que parfois on ferme les yeux, j'y vois des petits vaisseaux bleus qui houlent et naviguent sans cesse, gonflés d'amour et de tendresse. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort. Il fait très chaud depuis une heure, mais elle a gardé son manteau de peur que je lui voie la peau. Ce qu'elle demande est redoutable, car parfois la bouche est capable de faire frissonner, et bien plus, cela elle ne s'en souvient plus. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient pas encore du corps qui se plie et se tord. Si elle a oublié les gestes de cet amour raté, du reste elle se souvient par ailleurs du coup de couteau dans le cœur. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort, qui va de l'ami à la mort.
C'était Pierre Vassilou avec L'amour, amitié.
Le club carré sur France Inter.
Voilà, Antonio Fischetti, journaliste scientifique à Charlie Hebdo. Vous aviez également sévi dans La tête au carré et vous publiez aujourd'hui avec le dessinateur Bouzard La planète des sciences. C'est aux éditions d'Argo, galerie de portraits de 37 scientifiques. Vous revenez d'ailleurs du festival d'Angoulême. Ouais. De plus en plus d'ailleurs on parle de bandes dessinées ou d'ouvrages illustrés autour de la science. Ça c'est un super vecteur finalement pour en parler. Hein.
Oui tout à fait. D'ailleurs je l'ai constaté moi-même disons en dédicaçant avec Bouzard ce livre que il y avait des gens qui ne connaissaient rien du tout à la science, qui n'étaient pas spécialement intéressés par la science, mais qui étaient des passionnés de dessin et notamment des fans de Bouzard qui achetaient tout ce que Bouzard faisait. Donc il aurait recopié l'annuaire en dessin, il l'aurait acheté. Donc c'était mais voilà et donc c'est une clé pour entrer dans la science merveilleuse, hein,
absolument.
Donc, le dessin.
Et quand en plus il y a de l'humour, bah, ça marche à tous les coups, quoi, finalement. Hein.
Bah oui, voilà, oui, c'est un bon moyen. Et réciproquement, il y a des gens aussi qui sont intéressés par la science. science par le thème et qui, a priori, ne s'intéressent pas à la bande dessinée, mais qui ouais. après vont s'intéresser à la bande dessinée. Ça marche dans les deux sens.
C'est vrai, absolument. Alors, qu'est-ce qui les réunit, vos 37 scientifiques, Antonio Fischetti? On a cette couverture, on les voit presque tous d'ailleurs, hein, entre oui. Einstein, Marie Curie et les autres.
Bah, qu'est-ce qui les réunit? C'est moi, en fait, d'une certaine façon, puisque c'est un choix que j'ai fait, parce qu'il y en a des centaines, évidemment, ouais. qu'on aurait pu mettre.
Bah, oui.
Donc, ce choix, il a été guidé par plusieurs critères. Déjà, bon, le premier critère, je dirais, c'est un peu le côté révolutionnaire de la science, puisque la science avance de deux façons. Le côté, disons, l'avancée normale, avec les connaissances qui s'accumulent. Et puis, à un moment donné, il y a un changement total de paradigme. Hein. Donc, un avant et un après. Donc, ça, c'est un critère important.
Donc, c'est ceux qui ont bousculé, finalement, le cours de l'histoire.
Alors, évidemment, Einstein, Copernic, Pasteur, etc. Bon, des noms connus. Mais il y a aussi des noms, ce qui m'intéressait aussi, c'était ces noms qui résonnent dans l'imaginaire du grand public, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Parce que le but, en fait, le premier but, c'était d'expliquer l'histoire des sciences de façon très simple ouais. à des gens qui ne connaissent rien à la science, donc de présenter des idées, de la présenter de façon amusante et incarné aussi avec ouais. des aventures humaines.
Ouais. Donc on va de Thalès.
Oui, voilà des noms.
Emmanuel Charpentier.
Exactement. Voilà. Thalès, par exemple, beaucoup de gens connaissent ce nom. On l'a appris à l'école, Copernic, mais on ne sait pas forcément les théories derrière. Et puis un autre critère aussi, c'est l'aspect social et humain, puisque c'est ouais. la science est aussi inscrite dans l'histoire d'une époque.
Voilà, donc il fallait lever le voile humain aussi sur ces personnages. Oui,
avec des petites anecdotes aussi de vie, des anecdotes croustillantes parfois.
Ouais. Donc le principe, il est simple, hein. Il y a deux planches, une planche biographique vraiment et une planche dessinée.
Voilà, c'est le cahier des charges, c'est-à-dire de résumer en 4500 signes, une page qu'on peut lire en quelques minutes, ce que le scientifique a apporté, ce que ça aussi nous apprend aujourd'hui, même sur notre époque, hein, puisqu'il ouais. y a eu des scientifiques qui ont eu des problèmes avec la religion, par exemple,
Copernic,
Bougirin, Bruno, Galilée, et ça ouais. aussi, j'essaie de le mettre en lien avec des scientifiques ouais. qui, aujourd'hui, sont persécutés, notamment pour les idées darwinistes, etc.
C'est ça. Alors, mais heureusement pour nous, d'ailleurs, parce qu'on en rit quand même, hein, c'est aussi le but,
sûr,
parce
c'est
que
aussi c'est un des buts.
Hein. Ces pauvres hommes ont défendu des choses tout à fait respectables, comme le fait, évidemment, que le Soleil était placé au centre de notre système solaire, et puis on voit le pauvre Giordano Bruno qui se fait arracher les dents, par exemple, mais c'est très très drôle là en dessin pour le coup. Hein.
Bien sûr, alors moi j'ai écrit les textes et Guillaume Bouzard a fait les dessins en s'inspirant des textes, donc il y a une double lecture où l'humour des dessins, lui, est beaucoup plus libre et en revanche, tous les textes ont été aussi, je me suis forcé de les écrire dans un ton limpide, amusant, mais ils ont tous été relus par des spécialistes de façon très précisément, de façon à ce qu'il n'y ait vraiment aucune contre-vérité ou erreur, et c'est ça.
Vous avez du mal à trouver des femmes, Antonio Fischetti. C'est ça qui est finalement très énervant dans cette histoire des sciences, hein. C'est que les grandes figures féminines, on a bien du mal à les trouver quand même.
Alors, j'anticipe cette critique, hein, que.
Non, c'est une remarque qui est valable pour nous tous.
On me l'a faite aussi en me disant il y a peu de femmes. Effectivement, mais moi, la parité, c'était pas un critère ça n'était pas l'un de mes critères. Donc le fait qu'il y ait seulement 3 femmes sur les 37, c'est le reflet de la domination masculine en science. La plupart des scientifiques, en tout cas selon les critères choisis, sont des hommes, hein. Il aurait fallu faire, ça pourrait être l'objet d'un autre ouvrage, de faire un livre sur les sciences vues par les femmes, ou les femmes en science, en fait,
hein. On les cite justement, ces 3 femmes, puisqu'elles sont
bien sûr,
on peut prendre 2 minutes pour les citer quand même.
Bien sûr, il y a Marie Curie, d'incontournable, Emmanuel Charpentier, donc découvreuse de CRISPR-Cas9, le ciseau à ADN, hein,
Jane Goodall.
Et Jane Goodall. Voilà. Alors elle, qu'elle a apporté aussi, c'est dans l'éthologie, à la science du comportement, une façon totalement révolutionnaire d'étudier les chimpanzés, puisque à cette époque-là, déjà très peu de gens étudiaient les chimpanzés, mais ceux qui le faisaient soit derrière des cages, et elle est partie sur le terrain. Elle est restée des années en Afrique, hein, pour étudier les chimpanzés, mais c'était aussi parce qu'elle était une femme. C'est ça qui est assez amusant, parce que justement les hommes carriéristes, ambitieux, ne pouvaient pas, quitter leur laboratoire, leur université pour rester des années entières dans la jungle, sinon ils perdaient tout, leurs liens, leurs contacts, etc. Donc comme elle n'était pas carriériste, elle a révolutionné totalement la discipline.
Oui, absolument. Alors dans les vivants, parce qu'il faut en parler aussi. historiens, il y a quand même de grandes figures aussi. On commence à James Watson. On se dit, mais tiens, c'est vrai que Watson, il est encore vivant.
Oui.
1928, oui. L'histoire de l'ADN quand même.
Voilà, c'est l'ADN. Alors,
il est toujours en vie.
Non, vous êtes sûr qu'il ne vient pas de mourir?
Bah, écoutez, il faudrait réactualiser. Non, il est toujours en vie, Watson.
Oui, il est toujours en vie. Alors, effectivement, c'est lui qui a. Donc, il y a aussi une femme. Là, on peut
oui,
la citer
si
d'ailleurs.
Sophie
François, oui, évidemment.
Vous auriez pu faire.
Mais alors, justement, j'explique aussi tout ça très bien. Donc, Rosalie de Franklin, c'était donc faisait des radios, etc., des molécules d'ADN. Mais pourquoi j'ai mis Watson? Parce qu'en fait,
il est toujours
Watson
en vie. On vient de le confirmer. Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai eu peur, mais mon cœur commençait à battre très fort.
Hein. C'est Watson qui a conceptualisé la double hélice d'ADN. Et c'est pas Rosalie de Franklin. Alors elle n'y croyait même pas aussi au départ de cette théorie. Malheureusement, mais je la cite, je lui rends honneur, parce qu'en plus Watson était totalement misogyne, raciste, etc.
Ah puis c'est beaucoup servi quand même.
Donc
de ce qu'a fait Rosalie
de
Franklin quand même.
Donc c'est un sale bugus quand même, ce Watson. Hein. Oui. Mais il a quand même son mérite, c'est d'avoir formalisé cette double hélice, quoi.
Ouais, bon, Peter Higgs, Sophie Bécherel, il
pas
est toujours
jour,
en vie.
Chronique technologique.
Arrêtez de nous faire mourir tout le monde. Peter Higgs, le boson de Higgs.
Oui,
bah
alors c'est marrant, lui, c'est quand même. Il prédit donc une particule qu'on va mettre, je sais plus, 40 ans à découvrir. Donc là, c'est aussi, c'est une belle aventure, quelque chose qui n'existe que dans la tête d'un bonhomme et que bien des tas de, disons, d'années ensuite de travaux, etc., vont révéler.
Moi, la planche qui m'a fait beaucoup rire, c'est Yves Coppens. Ça. L'ambiance en Éthiopie, mais alors franchement, une espèce de bande de hippies découvre quand même Lucie, le fossile.
Ben oui, c'était des hippies, ils fumaient des pétards. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en écoutant les Beatles
ils sont
dans le désert qu'ils ont eu l'idée de baptiser ce squelette Lucie, comme dans la chanson Lucy in the Sky.
Ils ont l'air complètement stone, hein. C'est très très drôle. Aline Richard, oui.
Oui, j'ai pas lu encore, mais je vais me jeter dessus. Je vois qu'il y a Grothendieck, alors ça, donc ce mathématicien qui est décédé il y a peu de temps, là, pour le coup.
2014.
Et qui est effectivement une espèce de personnage absolument extraordinaire. Mais alors, pour expliquer les mathématiques de Grothendieck, alors je vais lire avec intérêt, là.
Oui, alors là, donc j'explique très succinctement les mathématiques de Grothendieck, effectivement, puisque là, ce serait totalement impossible. C'est des histoires de géométrie, etc. Mais lui, il était intéressant parce que, justement, c'est l'un des seuls scientifiques qui est mêlé à ce point la recherche scientifique et la politique, puisque donc il faisait des maths sur le campus en banlieue parisienne, et puis c'était 68. Tout d'un coup, il sort pour aller saluer les étudiants sur le campus, et puis là, il découvre en fait l'écologie politique, et c'est l'un des fondateurs de l'écologie politique. À la fin des années 60, on parlait pas d'écologie à cette époque-là. Et ensuite, il a même, démissionné de certaines fonctions qu'il avait, puisqu'il y avait de la recherche militaire en même temps que de la recherche scientifique, et il était totalement opposé à cela. Et donc, en fait, il m'intéresse pour ça, justement. C'est un exemple, qui a été très peu suivi par la suite.
Est-ce que vous avez un petit chouchou, vous, dans ces scientifiques, Antonio, sur les moins connus?
Ouais, voilà. Ben justement, ça tombe bien. Anthony von Leeuwenhoek, qui est un drapier néerlandais, et donc alors lui, pourquoi? Simplement parce qu'en fait, c'est le fondateur de la microbiologie. Donc c'est un drapier. Son travail, c'était de vendre des draps, des tissus. Il avait donc un coupe-fil, enfin un compte-fil pour une sorte de loupe. Ouais. Et puis, au lieu de regarder simplement les tissus, il s'est mis à regarder un peu partout. Il a découvert les bactéries, et puis c'est lui qui a découvert les spermatozoïdes,
les animalcules.
Qu'il appelait des animalcules, puisque là, il a eu l'idée de se masturber. Pour la science et de regarder son sperme. Il a découvert le spermatozoïde, c'est un drapier.
Et ça, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Antonio Fischetti avec Bouzard, ça s'appelle La planète des sciences, encyclopédie universelle des scientifiques chez Dargo, que je recommande chaudement à l'occasion du festival d'Angoulême.
Merci Mathieu.
Oh ben... Allez, Sophie Bécherel. Non, c'est pas pour vous, Antonio. C'est Sophie qui a bossé pour nous sur l'agenda du week-end.
Allez, parlons, tiens, à nouveau de Marie Curie, puisque si on veut en savoir un peu plus sur la vie de cette femme, on peut aller au théâtre de la Reine Blanche ce soir et pour pas mal de jours encore, voir le paradoxe des jumeaux. L'épisode, en fait, qui est narré, c'est en fait la liaison qu'elle a eue avec Paul Langevin, un autre physicien de renom du XXe siècle qui travaillait sur l'électromagnétisme, le mouvement brownien et la relativité. Et en fait, à cette époque-là, puisque Marie Curie était polonaise, elle a subi de la part de l'extrême droite une campagne très très violente contre elle, qu'on qualifiait d'étrangère. étrangères. Donc voilà, ce soir, 20h45, samedi également, et puis dimanche à 15h, mais on vous met tout ça sur le site de la Tête au Carré. Ouais. À partir de la semaine prochaine, l'Institut de mathématiques Henri Poincaré reprend son ciné-club scientifique.
Ah oui, c'est bien ça.
Voilà, 6e édition. Ouais. Les films sont projetés au cinéma Grand Action dans le 5e arrondissement de Paris, et ils évoquent beaucoup cette année les questions de sciences et société. Alors ça se passe chaque dernier mardi du mois, et le film est suivi d'une discussion ouais. avec un scientifique. Donc la première séance, c'est là exceptionnellement lundi prochain, 16 levées de soleil, le documentaire de Pierre-Emmanuel Le Goff sur Thomas Pesquet, avec Claudie Aigneré qui sera là pour en discuter. La semaine suivante, Into Eternity, un autre documentaire sur Onkalo, le centre d'enfouissement des déchets à haute activité, des déchets nucléaires à haute activité qui se trouve en Finlande, c'est un peu le Bure finlandais. Ce sera commenté par un géologue. Ensuite, il y a Total Recall, un film de science-fiction de Paul Verhoeven, inspiré d'une nouvelle de Philip K. Dick. Enfin bref, on vous met toute la programmation sur le site. Et puis, si vous êtes du côté de La Rochelle, allez au muséum où il y a Parang, la montagne habitée, une exposition qui raconte tout le travail que mène sur une des montagnes du Laos, des archéologues, des ethnologues, des paléoanthropologues. Un travail de fouille qui les a amenés à reconstituer 100 000 ans d'histoire de cette montagne qui a une grande signification puisqu'on y enterrait les morts.
C'est l'occasion d'aller en Charente, Maritime.
Voilà, et monsieur Dargaud, faites passer la commande à Antonio Fischetti sur les femmes de science, s'il vous plaît.
Voilà, et vous pouvez aller à Angoulême aussi, puisque ça n'est pas très loin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez un très bon week-end. Toutes les infos de ce club sont sur le site de la Tête au Carré.